Vous écoutez Secrets d'Histoire, Voltaire ou la liberté de penser. Deuxième partie.
À 30 ans, Voltaire pense pouvoir enfin se considérer comme l'égal des nobles, lui, l'aristocrate de l'esprit. Mais une altercation avec l'un d'entre eux, lors d'une soirée mondaine, va cruellement le détromper.
Il y a le chevalier de rang Chabot, qui plaisante de façon assez désagréable sur son nom de Voltaire. Qu'est-ce que c'est que ce nom-là ?
Evelyne Levert, historienne.
Et Voltaire lui répond avec beaucoup d'insolence : « Mon nom commence là où finit le vôtre. » Et on en reste là. Seulement quelques jours plus tard, le chevalier de rang Chabot fait bastonner violemment Voltaire à la sortie d'une maison où il l'avait fait inviter. Il est perclus de douleur, il reçoit des quantités de coups de bâton.
Voltaire demande réparation et commence à s'apercevoir que ses amis nobles le plaignent, certes.
François Jacob, biographe.
Mais ne font rien pour lui venir en aide et au fur et à mesure que passent les jours, Voltaire s'aperçoit même qu'on lui conseille de se taire et de passer outre cette humiliation.
Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça le ramène à sa condition.
Pierre-Yves Beaurepaire, historien.
Il peut être une star donc sur la scène littéraire et mondaine. Il peut être Voltaire, en fait. Il n'est qu'un roturier, et donc on peut lui donner le bâton.
Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Car les désirs de vengeance du jeune auteur inquiètent suffisamment l'entourage du chevalier pour qu'on envoie Voltaire une nouvelle fois à la Bastille. Il est libéré au bout de 2 semaines, à la condition de quitter Paris. Pour son exil, Voltaire choisit de gagner l'Angleterre.
L'Angleterre de cette époque, c'est l'Amérique des années 50. C'est l'endroit où on va voir une société beaucoup plus avancée, tout autrement organisée.
François Bessire, président de la société Voltaire.
Et c'est cette curiosité qui le pousse à y aller. La circonstance tombe bien, ça permet de se faire oublier pendant quelques années.
Il apprend très rapidement l'anglais par le biais du théâtre. Lorsqu'il se rend au théâtre de Drury Lane et qu'il prend, nous dit-on, les manuscrits du souffleur pour apprendre l'anglais à travers Shakespeare.
Témoin de son étonnante maîtrise de la langue, mais également de son grand enthousiasme pour les mœurs anglaises, sa correspondance de l'époque. La Bibliothèque nationale de France conserve un recueil de certains de ses courriers, dont cette lettre, écrite quelques mois seulement après son arrivée sur le sol anglais.
Le fait qu'il mette un point d'honneur à écrire en anglais n'est pas anodin.
Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France.
C'est que Voltaire, en Angleterre, va se sentir chez lui. Il va très vite se prendre pour un Anglais. Il va mettre un petit peu de côté son identité de Français. On a vraiment l'impression qu'il est tombé amoureux de ce pays et de ses habitants. Il a été séduit par l'atmosphère de liberté qui règne en Angleterre. En Angleterre, où, comme il le dit, aucune manière de vivre n'y paraît étrange. On y voit des hommes qui font 6 miles par jour pour leur santé, se nourrissent de racines, ne mangent jamais de viande, portent en hiver un habit plus léger que le costume de vos dames dans les jours les plus chauds. Tout cela est ici regardé comme une singularité, mais n'est taxé de folie par personne. Donc, en réalité, les Français se moquent toujours des Anglais pour leur excentricité. Ce que Voltaire, lui, y voit, c'est la liberté d'être absolument ce que l'on veut.
Voltaire découvre également ce que signifie l'exercice de la liberté à l'échelle d'une nation.
Ce qui le frappe beaucoup dans la société anglaise, c'est la tolérance religieuse.
Il y a des juifs, il y a des mahométans, il y a des chrétiens, il y a des athées, et tous ces gens vivent en parfaite harmonie. C'est quelque chose qui le séduit et qui le surprend.
Ce qui le fascine aussi, c'est l'organisation politique, le régime parlementaire, qui est inconnu totalement de ce côté-ci de la Manche et qui apparaît là dans toute sa force. Le roi ne peut que faire du bien. Il est empêché dès qu'il veut faire du mal. Solution qui lui paraît politiquement la meilleure. Donc c'est un autre monde. C'est un monde en avance.
Pendant son séjour anglais, Voltaire tient un journal de bord qu'il achève une fois rentré en France. Ses écrits, au contenu explosif, deviendront les lettres philosophiques.
Les lettres philosophiques ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est une forme de remerciement à la société qu'il a accueillie pendant plus de 2 ans, la société anglaise, et de miroir, en quelque sorte, de l'Angleterre. Le deuxième objectif, c'est évidemment de dire ce qui ne va pas en France. Regardez comment les choses se passent en Angleterre, et par contraste, le lecteur comprend que ce qui se passe chez nous ne va pas bien.
Il fustige le despotisme monarchique français et il fustige aussi l'intolérance religieuse qui règne en France. Ce sont les deux points qui véritablement ont causé le grand scandale.
Les exemplaires saisis sont brûlés devant le palais de justice parce qu'effectivement le pouvoir d'ancien régime a bien compris que c'était une bombe.
À peine rentré d'exil, Voltaire est de nouveau persona non grata à Paris. Il va devoir se faire discret et se tenir encore une fois loin du pouvoir quelque temps.
Émilie du Châtelet, d'après le peintre Marianne Loire, l'une des premières femmes à se consacrer aux sciences. C'est avec Émilie qu'il connaît le véritable amour pendant plus de 15 ans. Mais elle n'est pas la première femme à tomber sous son charme.
On ne peut pas dire que Voltaire soit un homme à femme, mais on ne peut pas dire non plus qu'il soit désintéressé des femmes. Il a toutes sortes de conquêtes dans sa jeunesse.
Il tombera amoureux de plusieurs comédiennes, mais ce sont des aventures qui sont des aventures sans lendemain. Il a beaucoup aimé Adrienne le Couvreur, semble-t-il.
Mais aussi, il n'hésite pas à vouloir briller et à vouloir séduire des femmes de l'aristocratie.
Et il n'y a qu'une femme qui compte vraiment, et c'est Émilie du Châtelet.
Voltaire rencontre la marquise Émilie du Châtelet en 1733 et tombe immédiatement sous son charme. Il a 38 ans, elle 26. Elle est dotée d'un physique impressionnant et d'un esprit qui ne l'est pas moins.
Madame du Châtelet est sans doute l'une des femmes les plus brillantes du XVIIIe siècle. C'est une réelle femme de science.
Très vite, elle s'est affirmée comme un petit génie mathématique, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des lumières de tout et de connaître admirablement la littérature. Et là, il y a un coup de foudre réciproque entre deux génies qui se reconnaissent.
Quand elle fait la connaissance de Voltaire, Émilie est une femme déjà mariée depuis 8 ans au marquis du Châtelet. Mais son statut matrimonial n'est pas un frein à sa nature pour le moins voluptueuse.
Elle est quasiment volcanique. Elle a un feu intérieur qui est remarquable.
Élisabeth Badinter, philosophe.
Elle est une passionnée amoureuse, elle a pas mal d'amants.
On est dans ce milieu aristocratique dans lequel la liberté des époux fait partie du contrat. Émilie a rendu les services qu'on lui a demandés. Elle a vécu avec du Châtelet, elle lui a donné des enfants et elle estime qu'elle a fait son devoir et que désormais elle est libre.
L'histoire d'amour entre Émilie et Voltaire va totalement s'épanouir ici, au château de Cirey, propriété du marquis du Châtelet en Haute-Marne. Voltaire vient s'y réfugier en 1734 après le scandale provoqué par les lettres philosophiques.
Voltaire ne pense rester à Cirey que quelques mois, le temps de se faire oublier à Paris. Mais quand il arrive à Cirey, contre toute attente, il a un véritable coup de foudre. Et il décide de s'y installer.
Adélaïde Pringal, propriétaire du château de Cirey.
Alors, dans un premier temps, il va entreprendre de restaurer la partie existante, avec l'accord, bien sûr, du marquis du Châtelet. Et puis, il va poursuivre, trouvant le château trop petit, il décide de l'agrandir pour y installer une aile dans laquelle il mettra ses propres appartements. Et ce qui est amusant, c'est que non seulement il fait construire une partie du château à ses propres frais, mais en plus, il y met vraiment sa marque, son identité, en faisant construire cette jolie porte sculptée, dédiée aux arts et aux sciences. On trouve ainsi l'astronomie, la peinture, la sculpture, l'écriture.
Au château de Cirey, Voltaire et Émilie vivent un quotidien riche de plaisir et d'émulation, rythmé par les sons de cloches.
Voltaire est quelqu'un qui a horreur de perdre du temps, il est toujours en train de faire quelque chose, et pour essayer de perdre le moins de temps possible, eh bien, il impose aux habitants de la maison un rythme tout à fait particulier. Le premier son de cloche est à 10h du matin. Donc là, tout le monde a le droit de sortir de sa chambre.
Les journées à Cirey se partagent entre discussions philosophiques très importantes, plaisir de l'amour, qu'il ne faut pas négliger, et expériences diverses.
Ce sont deux travailleurs, je dirais, acharnés. Chacun travaille dans son bureau, dans sa chambre, et ils se retrouvent au repas.
Il y a là une véritable source de bonheur à la fois physique, le bonheur d'être ensemble, de ne pas être gêné par la société environnante, et intellectuel.
Voltaire dira, dans une lettre à un ami, « Nous sommes des philosophes très voluptueux ».
Cette communion totale n'empêche pas la compétition intellectuelle entre les deux amants. Notamment quand Voltaire participe à un concours de dissertation sur la propagation du feu, organisé par la prestigieuse Académie des sciences.
Et elle, qui n'était pas du tout d'accord avec les thèses de Voltaire sur ce sujet, elle a elle-même envoyé secrètement son mémoire sur le même sujet. Ils n'ont pas gagné ni l'un ni l'autre le concours, mais Voltaire a beaucoup insisté pour que le mémoire de Madame du Châtelet soit imprimé par l'Académie des sciences, qui était un grand honneur, et il n'a pas du tout demandé la même chose pour lui-même. Ça, c'est une preuve d'amour.
À Cirey, le couple s'adonne également à l'expérimentation scientifique. Voltaire n'hésite pas à verser la somme considérable de 10 000 livres à l'abbé Nollet, le fabricant le plus fameux du royaume, pour constituer son cabinet de physique, le premier en Europe chez un particulier. Le musée des arts et métiers à Paris conserve dans ses collections certains des appareils conçus par ce génie de la vulgarisation scientifique.
Au XVIIIe siècle, on va constituer des cabinets de physique qui sont des vrais lieux de science.
Lionel Dufaux, responsable de collection au Musée des Arts et Métiers.
C'est-à-dire des endroits où on va essayer de reproduire des phénomènes naturels pour pouvoir mieux les observer et mieux les expliquer. Et donc, Nollet est un personnage clé dans cette histoire-là. C'est l'un des pionniers en termes de vulgarisation et surtout l'un des premiers Français à construire des instruments scientifiques.
Si les deux amants expérimentent de concert, le savant des deux est bien Émilie du Châtelet. Elle signe la première traduction des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton, l'une des œuvres majeures de l'histoire scientifique.
On ne peut pas dire de Voltaire qu'il devienne homme de science. Néanmoins, il s'intéresse aux phénomènes scientifiques, notamment à celui de la gravitation universelle, pour en tirer des conséquences sur le plan philosophique. Tout ce qui est irrationnel, tout ce qui ne peut pas s'expliquer, n'existe pas. C'est ça qui l'intéresse.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Marie-Laurence Reims. Il a été réalisé par Marie-Laurence Reims et Xavier Lefebvre. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.